et messieurs, ladies and gentlemen, guten Abend, bonsoir, good evening, Pickets, do you feel good? Comment ça va?
Bonsoir, toi qui nous écoutes au 102.2 de la bande FM et sur radiocanu.org. Il est 22h et c'est l'heure de la causerie comme tous les dimanches. Comme tous les dimanches.
Ou presque.
Ou presque. Alors, ce soir, dans les studios, nous avons à la technique Clara.
Bonsoir.
Bonsoir. Nous avons Fab.
Bonsoir Jean-Yves.
Bonsoir. Alors, avant d'entamer nos sujets, on va vous rappeler comment nous joindre, évidemment. N'hésitez surtout pas à nous écrire par mail à lacausericanu@gmail.com. Lacausericanu,
tout attaché,
en minuscule. @gmail.com. Mais non. Tu me perturbes. Vous pouvez évidemment retrouver toutes les émissions passées sur le blog de l'émission. C'est à blogs.radiocanu.org/lacauserie. Et vous nous retrouvez aussi sur un réseau socio-commercial. Ou un réseau social.
Tu appelles ça comme tu veux.
Petit clin d'œil
à la causerie de la semaine dernière.
Ouais, t'as vu.
Il est bon, il suit.
Ouais, attends, c'est un truc de fou. Comme si j'étais là tous les dimanches. Donc sur les réseaux sociaux, vous cherchez la causerie Canu et vous devriez tomber sur nous. Et
sur tous les trucs de podcast aussi.
C'était ça, et je crois que j'ai rien oublié.
Non, c'est bien. Et donc, du coup, on va démarrer cette émission. Alors, ce soir, vous allez voir, on va commencer localo-local. Et ensuite, on va partir très loin. Voilà, c'est ça qui est bien dans la causerie.
On voyage.
Gratos. Et donc, Jean-Yves, ce soir, tu voulais nous parler d'un petit coin de France qu'on appelle l'Auvergne-Rhône-Alpes.
C'est tout à fait ça. Ce soir, j'ai envie de vous parler de ces personnages public et politique, en fait, hein, rempli de morale, d'autorité et d'autoritarisme, et toujours en quête de dénoncer des boucs émissaires, parce que c'est toujours ce qu'il faut dans une vie politique, hein, et qui, pour ce qui les concerne, par contre, semblent être beaucoup plus souples. Il y a une forme de souplesse quand c'est pour leurs propres affaires. Bref, des personnages qui sont en fait proches du « faites ce que je dis, ne dites pas ce que je fais ». Pardon, mais c'est con, mais on est cru dans mon sujet. En fait, j'ai l'impression que c'est pas une expression de partout. Ça m'a beaucoup renvoyé vers les Vosges. C'est bizarre. Alors peut-être amis français de l'intérieur qui ne connaissaient pas cette expression, apprenez-la. Apprenez-la, la diversité du français.
Normalement, on dit faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais.
Ouais, c'est ça.
Voilà, et ne dites pas ce que je fais. Voilà.
Donc je suis peut-être le seul à l'utiliser.
Et alors, donc,
vous aurez compris le cœur du truc.
Tu viens de révéler à la galaxie entière que tu étais pas loin des Vosges avant d'arriver à Lyon.
Oui, je crois que c'est su, ça. Et en même temps, tout le monde s'en fout. Ils ont raison.
Peut-être pas les RG. Va savoir. Peut-être qu'ils te cherchent.
Coucou, toi, si tu nous écoutes. Pardon. Donc, si je vais ce soir me concentrer sur une personne, cette distance en fait, qu'on peut observer entre l'autoritarisme, le contrôle demandé pour les autres, et le fait que ça ne s'impose pas pour ces mêmes personnes qui peuvent dire ça, est bien plus fréquente, et pas qu'à droite en fait, de l'échiquier politique, et pas uniquement non plus dans le jeu gauche-droite allant de toute la diversité que cet éventail politique de l'Assemblée peut représenter. Bref, l'incohérence entre le propos et l'acte, en fait, n'est pas réservée à cette personne-là dont je vais parler, ni à un seul camp politique.
Bon, ça, il suffit de suivre un peu les affaires politico-judiciaires pour se rendre compte que ça touche un peu tous les partis et tout le temps.
Et oui.
C'est pas rare, quoi.
C'est ça.
Enfin, surtout en France. Hein.
Oui.
Ouais.
Je vais donc vous parler d'un certain Laurent Wauquiez.
Oh, Lolo !
C'est ça, Lolo pour les intimes, donc Fab est un intime. Hein.
Bah attends.
Vous savez, ce personnage président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, opposition souvent très droitière, et qu'il assume. Hein. Ah, c'est le doigtière ?
Oui. Pardon, excusez-moi.
C'était pas du tout voulu.
Non, mais pardon, mais elle était très bien.
Et d'ailleurs, Lolo se désigne hein, lui-même, je crois, comme un homme de droite de la droite.
Alors...
Tout un programme.
Donc on en parlait dans la prépa de l'émission. Donc droite de la droite.
C'était Clara qui avait remarqué, dit mais en fait.
C'est quoi droite de la droite? Alors moi j'ai une définition, c'est à gauche du fascisme.
Voilà.
Voilà. Donc en fait ce que vous voulez.
Voilà.
C'est la gauche du fascisme ou la droite de la droite, mais ça si tu pars là.
Ouais c'est ça. C'est à peu près là quoi.
C'est un ridicule. Non mais déjà qu'il se soit défini comme ça, c'est assez ridicule.
Bah alors après j'ai retrouvé ça, mais enfin vraiment c'était vraiment comme lui se présentait.
Ah oui non mais il se présente comme ça. Il s'était présenté comme ça pour légitimer le fait.
Peut-être un peu, mais.
Ouais, quand il voulait partir à la présidentielle, tout ça, ce qu'il fera en 2027. Mais c'était un petit peu l'idée de se présenter comme la droite de la droite.
Ferme voilà. Et dur.
À la fois.
Pardon. Allez, on revient à mon sujet, hein, parce que là, je m'égare à mort. Donc, au choix, hein, il aime dénoncer les chômeurs et le soi-disant assistanat. Hein. Alors. Avant de continuer, j'aimerais qu'on se rappelle, en fait, ensemble, hein, que le chômage est dénommé d'ailleurs assurance chômage. Mmh. Et que donc, nous y cotisons toutes et tous pour cela.
Ah, c'est
bref,
le principe.
Ouais, bref, en fait, un chômeur ne vole personne et est assisté de personne, en fait. Hein, c'est-à-dire qu'il a juste un droit dont il jouit. Bon, peut-être que Laurent Wauquiez veut enlever ce droit-là. Ce serait pas étonnant d'un mec de la droite, mmh. Et de la gauche, de l'extrême droite.
Et peut-être que Laurent Wauquiez veut plus qu'on jouisse. C'est possible aussi.
C'est possible aussi. Que Dieu ait sa garde. Alors, pardon. Alors, et on peut aussi rappeler, hein, concernant le chômage, c'est une petite parenthèse, mais j'aime bien quand même qu'on se le rappelle, qu'en fait, seuls 50% en fait, des chômeurs et des chômeuses sont indemnisés. Alors, l'assistanat, bon. Hein.
Et d'ailleurs, la nouvelle réforme du chômage qui vient de passer risque de monter ce chiffre à 70%, parce qu'en fait, il y a des nouvelles règles. Et au final, en fait, on est en train de voler les personnes qui sont au chômage. Parce que c'est ça hein, qu'on fait, hein, comme tu disais, une cotisation collective pour protéger les privés d'emploi. Et aujourd'hui, on voit bien que, en les montrant du doigt, ça sert à faire semblant de faire quelque chose pour l'emploi. Alors qu'en réalité, on ne fait que trouver des boucs émissaires. Qui ne sont pas du tout coupables de quoi que ce soit. Mais...
C'est tout à fait ça. Alors revenons-en à notre cher Wauquiez, hein, cet homme à droite de la droite, qui aime la sécurité, les flics. Et aussi dénoncer les dépenses publiques. Et qui aime donc hein, dénoncer le soi-disant gaspillage d'argent public. Bah, c'est le même, en fait, qui peut s'autoriser d'en gaspiller, lui. Bon. Alors, et d'ailleurs, hein, il semblerait aussi que s'il a envie de contrôler fortement et très fermement les assistés, hein, bonjour, il nous est impossible, par contre, de contrôler ses propres dépenses. Pour info, un média local, Médiacité de Lyon, demande depuis un an. Hein, 365 jours, l'accès aux notes de frais de la région. La réponse, c'est, on va dire, un an de silence ou alors de mépris. Hein. Pour le grand Zorro de la dépense publique, hein, du contrôle et de la morale, ça la fout un peu mal, non ?
Ouais, mais c'est surtout marrant parce qu'on voit les différences de nord-sud en Europe. Dans les pays nordiques, les notes de frais sont carrément disponibles sur les sites.
Public.
Ça, sont publics, c'est-à-dire vous allez voir tout ce que les élus dépensent. C'est au jour le jour en plus, donc voilà. Et je m'étais amusé d'ailleurs à aller voir, parce que vous pouvez même le voir quand vous n'êtes pas du pays. Parce que, alors ça dépend du pays. Il y a des pays où il faut rentrer son numéro machin, et d'autres où en fait c'est carrément libre. Et je trouve ça, moi, parfaitement légitime, parce que c'est de l'argent collectif. Et,
oui, voilà. Mais ça fait douter de nos politiciens.
Ouais,
alors
mais...
que... Dans les faits, il y a absolument, mais alors absolument aucune raison de douter de nos politiciens.
La confiance n'évite pas le contrôle, quoi. Je veux dire, par définition.
Ah ouais, mais ça, on a un peu du mal.
Ouais.
Alors, je voulais quand même aussi et surtout, en fait, vous parler des grands repas que notre cher Lolo local organise et que c'est une info, en fait, qui a été sortie par Mediapart, en fait.
C'est pas le Wauquiez aussi qui avait fait sauter des financements d'assaut, des trucs comme ça ?
Si.
Ouais, on y vient.
Je
Pardon.
Viens. J'arrive. Ce monsieur, hein, à l'ambition débordante, organise donc des, je cite, dîner des sommets, qui sont en fait une petite sorte de petit cercle en fait, hein, de la bourgeoisie locale, des possédants locaux, avec allez, un petit panel de chefs d'entreprise, de patrons de presse, de sportifs, de chefs de cuisine. Oui, parce que nous, Lyon, c'est la gastronomie, enfin, vous n'imaginez pas.
On a beau le Bocuse,
mais
enfin, on l'avait.
Entre autres. Bon, il y a encore sa tombe, non? Sûrement pas loin.
Sans doute.
Faut dire aussi quand même que si vous souhaitez une belle carrière politique et viser la présidence de la République, bah c'est du boulot. Il faut lâcher les bourgeois, il faut préparer ses appuis, ses soutiens. Enfin bref, il faut créer sa petite cour comme au temps des rois. Ah non, attention. Aujourd'hui, on ne dit plus cour du roi, on dit créer des synergies. Alors... Ça a une autre gueule quand même.
C'est joli, ça sonne
bien.
Créer
des synergies, c'est beau.
Qu'est-ce que t'as fait ? Moi, je crée des synergies.
Il y a quelque chose, il y a un mouvement. Enfin, tu vois, il y a quelque chose vraiment de beau, quoi. Alors, non pas pour la région, hein, comme le prétend Wauquiez et son entourage. D'ailleurs, il faut savoir que ces dîners n'étaient même pas sur l'agenda de Laurent Wauquiez. C'est dire quand même...
Ah, c'est un oubli. Ça, je suis sûr que c'est un oubli.
Alors, parce qu'en en fait, à ces dîners, c'est le seul politicien qui est présent.
Alors, oui.
Donc, bon, je pense qu'il a une grande capacité, hein, Laurent Wauquiez, de synthétiser, de représenter. Mais je me dis, représenter toute une région à lui tout seul, au milieu de plus de 60 patrons et autres, bah, il a peut-être un peu les épaules pas assez larges quand même, et les oreilles, il a peut-être la tête pas assez grande quand même pour enregistrer toutes les informations. Non, je pense que vraiment il travaille juste pour son petit cul et sa carrière. Donc ce Wauquiez, hein, qui aime à tailler dans les subventions des villes et villages, sauf ceux de sa région natale, qui aime à retirer des subventions aux associations, associations soi-disant woke. Hein, c'est le mot à la mode, à la droite et à l'extrême droite.
C'est des gens qui n'aiment pas la cuisine asiatique. On a bien
ça
compris.
Doit être ça. comme par exemple, hein, Philaction, qu'on a déjà pu recevoir ici, sur dénonciation fantasmatique de l'extrême droite lyonnaise, c'est-à-dire que Laurent sait tendre ses oreilles, hein, bizarrement souvent à l'extrême droite, mais en même temps, il faut dire qu'il est à droite de la droite, donc bon, c'est normal.
Bah oui,
il y a juste une cloison qui les sépare. Hein.
Et à gauche du fascisme, donc
c'est ça.
C'est pas très loin.
Et ben, le petit Gus, lui, par contre, n'a aucun problème à dépenser l'argent public pour ses orgies culinaires. Alors à l'heure qu'il est, hein, il a organisé deux de ces, je cite, dîners des sommets. C'est, vraiment, c'est beau. Enfin bref.
Surtout si tu les fais autour de Lyon.
À basse altitude.
De quel sommet il parle. Non mais en plus c'est ridicule, il aurait fait ça dans une station de ski, j'aurais dit.
Ah mais si, c'est les sommets, c'est l'élite.
Ah, c'est l'élite.
Pour moi il y a quelque chose de
oui.
Cet ordre-là.
Moi je croyais que c'était lié à la géographie.
Ah mais
pas du tout.
Ah non.
C'est sommet au sens, les gens qui sont là, c'est la sommité.
Il le fait exprès.
Non,
j'ai l'impression.
Non, je me suis dit, vraiment, quand j'ai entendu le nom, je me suis dit, le mec s'est pris pour Davos, tu sais, là, je vais faire ça sur une station de ski. Sommet, mais non.
En, fait, bah en plus, surtout qu'il vient juste du Puy-en-Velay, donc il bon, y a de l'altitude, mais c'est pas les Alpes.
Il y a un peu d'altitude et des lentilles, quoi, donc c'est pas mal.
Donc voilà, donc, hein, à l'heure qu'il est, il a organisé deux de ses donc, dîners des sommets, et un autre devait avoir lieu, là, à l'automne.
Ah.
Mais il semblerait que son organisation soit suspendue.
On se demande pourquoi.
C'est
peut-être
bizarre.
Parce qu'on a su que les autres existaient.
Peut-être. Alors, je résume. Hein. À chaque fois, ces dîners des sommets, ça s'est passé dans des lieux prestigieux. Alors, au printemps, c'était à l'Institut Paul Bocuse. Et le second, donc le 23 juin dernier, au Château de la Chaise, avec un Z, dans le Beaujolais, propriété du millionnaire Christophe Grouy, qui a fait fortune dans les infrastructures ferroviaires, l'immobilier et l'énergie. Propriétaire, je précise, mais vous l'aurez peut-être deviné, qui était évidemment invité au dîner. C'est normal, on remercie toujours celui qui nous reçoit.
C'est marrant de louer un truc où t'invites le gars qui tu loues.
Ouais.
Comment ça va, toi ?
Il y a de l'idée, tu
Coute,
sais.
Viens à table, ok.
Alors, justement, alors, en parlant de ça, moi je propose, on en a parlé un petit peu avant la prépa, moi je propose de mettre un lien d'un article avec des photos de la soirée.
Ah,
parce
oui.
Que vraiment, c'était beau. Histoire que vous aussi, auditeur, auditrice, bah vous puissiez goûter à l'ambiance de ces dîners au sommet sans jamais y aller, hein, parce que c'est pas notre place.
Juste goûter à l'ambiance.
C'est ça, avec magnum de champagne, service à la cloche, avec un serveur par invité. Enfin voilà, vous voyez, des trucs que bah, ni vous ni moi, je ne pense, ne pourrons jamais goûter de notre vie, en fait.
Hein. Alors, juste quand même, pour faire un parallèle, parce que quand on en avait parlé, j'ai cherché entre-temps, un serveur par invité, c'est au niveau d'un palace de luxe, mais vraiment le très très haut de gamme, parce que même dans les palaces premiers de gamme...
Il est là, le sommet. Ah, c'est très, ça. Très haut de gamme.
Voilà, c'est la haut de gamme, c'est le sommet.
C'est
bah ouais.
De la poésie, en fait.
Ah, il est poète.
Il est poète, Laurent. Alors, pardon, mais il vaut mieux en rire que s'en foutre. Quoi. Ouais. Alors, le prix hein, total... Alors, non, pardon, si j'en suis là. Le prix total, hein, toujours selon Mediapart, en fait, atteint 100 000 balles.
Okay. Pour 60 invités.
Le menu, hein. Enfin le, ah ouais. La soirée, hein. 100 000 boules. Hein. Alors 100 000 balles, parmi lesquelles il faut compter quand même 19 751 euros, les chiffres sont très précis. Pour le traiteur, un certain Bocuse.
La maison c'est Bocuse, donc du coup.
C'est marrant ça. Ouais. Donc là aussi, c'est un qui fait le repas, le même qui reçoit le premier. Enfin bon, il y a des trucs comme ça. Alors sur
il n'y a 100... pas de conflit d'intérêt.
Non, aucun.
Il n'y a que du hasard.
C'est ça. Alors parmi ces 100 000 balles, hein, il y a aussi 45 000 balles et un peu plus pour la location de mobilier et de matériel son et lumière. Là aussi, par une entreprise bien connue des Lyonnais et Lyonnaises, hein, nommée. JL Events.
Ils sont partout.
Dont le patron, Olivier Ginon, était lui aussi invité. Et là, c'est normal.
Bah, pas de conflit d'intérêt du tout,
moi, attends,
évidemment.
Moi quand je vends une crêpière à un pote, je vais aussi manger des crêpes chez lui. Ah non, je prête en fait, je loue pas. Non, je sais pas, c'est bizarre, ils vivent dans un monde vraiment bizarre. Il y a toujours des histoires d'argent, c'est jamais de l'entraide, c'est bizarre.
Bah,
bref, toujours de l'argent à se faire donc.
Donc 40, presque 46 000 euros dans les poches de JL Events.
Ouais, c'est ça.
Pour du mobilier.
Oui.
Et des lumières.
Et des lumières.
Eh bien, moi, je vais louer des tables et des chaises, moi, je te le dis. Hein. À ce prix-là.
Oui, mais c'est en Ubuque. Pardon, je reviens à mon sujet. Donc, cela représente quand même hein, une addition finale de plus de 1100 euros par convive. En fait, peut-être un peu plus. Ouais, parce qu'en fait, à ce que je viens de vous dire, il faut encore ajouter le fait que pour les organiser, bah, le président de région a aussi fait appel à un service d'un consultant de luxe, Edouard Tétrault, pour une société de conseil Mediafin. Et le coût de la prestation, bah, c'est 48 000 balles sur 24 mois. Donc, il faut la rajouter. Et pour le premier dîner aussi, il y avait une autre info qui était sortie, c'est que. Ben, il faut ajouter les frais de déplacement et d'hébergement d'une sportive ukrainienne vivant aux États-Unis venant exprès pour le dîner. 12 000 balles. Parce que oui, en fait, elle est arrivée le jour même, elle est repartie le lendemain et elle a fait un voyage assez long en passant par Bogota, etc. Et je crois que l'hôtel, c'était 600 balles à peu près la nuit. Voilà, c'est juste pour vous donner une idée.
Mais donc, en fait ce qui est fou, donc, c'est que ces dîners-là, ça réunit donc des sportifs, des chefs d'entreprise, tout ça. En fait, il manque plus que la partie fine et on est à Dédé la Saumure à Lille, quoi. Pardon.
Oui, mais c'est là qu'on en revient à Lolo, ami de la Manif pour tous.
Ah oui, pardon. Donc, non. Pas de partie fine.
Pas de partie fine.
Juste du bon à manger.
C'est ça. Alors, donc on est quand même là, au total... pas loin d'un SMIC en fait.
Ouais, c'est énorme.
Pour un repas.
C'est énorme quand même.
Bah, je me dis, quand tu gagnes qu'un SMIC, te dire qu'il y en a qui l'ont claqué en une soirée pour un repas. Comment te dire ? C'est bizarre.
Bah ouais.
Alors bref, hein, là encore une fois, c'est une belle démonstration en fait de l'assistanat réel, c'est-à-dire celui de la bourgeoisie et des possédants, ceux qui ont déjà et qui continuent d'amasser en fait. Et cette bourgeoisie, hein, elle est politique et économique, vous l'aurez compris. Ainsi, c'est aussi une démonstration bah, du toujours ce vieil adage, qu'il n'y a que moi qui connais. Fais ce que je dis, ne dites pas ce que je fais. Hein. Bon bah c'est pas grave, je vais poser à... Voilà, la propriété intellectuelle.
Alors, non, les Vosgiens vont te choper et dire non, ça. C'est à nous.
C'est ça. Alors, comme je le disais au début, hein, je ne cherche pas à dénoncer que Wauquiez, même s'il est toujours intéressant, quand même, à minima, de voir en fait les écarts possibles pour un énergumène qui veut contrôler, fliquer tout le monde et voir ce qu'il accorde et ce qu'il arrivera à justifier. Hein. Même si, bon, là, il reste un peu silencieux sur ce truc-là, mais je pense qu'il arrivera à le justifier. Un peu, alors aussi, comme il est intéressant, en fait, de voir bah, les religieux les plus moralistes déverser leur haine des LGBTI, de l'avortement, des femmes, etc., et de les entendre vachement moins, en fait, quand ça concerne des viols ou des agressions au sein de leur secte, en fait. Ou encore, c'est des parallèles, vous pourrez me dire foireux, mais c'est pour montrer l'éventail, en fait, des positions qu'on peut avoir, dire... et l'acte. Et ou encore, hein, comme certains partis de gauche qui soutiennent lors des campagnes électorales les réfugiés, les sans-papiers, etc. Mais qui, en fait, quand ils ont le pouvoir dans certaines villes, ben, on ne voit pas vraiment le problème d'expulser des squats ou des lieux. Quoi. Donc finalement, ce truc-là, c'est vraiment pas juste Wauquiez. Alors, hein. Alors si on arrive à tant d'écart entre les pensées, les idées revendiquées et les actes, aussi différents soient-ils, j'en suis bien conscient, et aussi répandus soient-ils, ben, peut-être qu'on interroge mal les choses finalement. Et peut-être qu'au lieu de parler de bien, de mal, et peut-être qu'au lieu de laisser croire que, entre guillemets, si nous on avait le pouvoir, ce serait différent, bah, peut-être qu'on devrait plutôt justement interroger cette notion de pouvoir, de contrôle de mandat, etc. etc. Parce que rien ne dit, pour les affaires que je nommerais de corruption, même si je sais bien que ce n'est pas le bon mot.
Oui, mais ça y ressemble.
Ouais, un juriste me donnerait sûrement une bonne définition, etc. Enfin bref, même si...
Du graissage de pâte,
ouais, c'est
pour
ça.
Parler un peu vulgaire.
Et donc rien ne dit, en fait, pour les affaires que j'ai nommées là, que bah, si c'était moi ou vous qui avions autant de pouvoir... Bah, qu'on ne serait pas aussi corrompu en fait. Parce que c'est peut-être justement le pouvoir en fait. On arrive à des sphères où tout est plus facile, il y a plein de liens, c'est une micro-société quoi.
Bah, y a un exemple frappant hein, dans les invités qu'il y avait chez Wauquiez, qui est de son gars. Qui est quand même un tennisman et tout, qu'on a vu beaucoup venir expliquer aux gens qu'il fallait donner à des associations, qui faisait partie de la fondation Kinder à une époque, rappelez-vous. Enfin, je ne vous ferai pas tout son parcours, mais qui quand même a appelé très souvent aux dons, machin et tout. Et en fait, ce mec, ça ne le dérange pas d'aller s'asseoir à une table et de bouffer un SMIC. Et à un moment donné, c'est là qu'on voit la déconnexion.
Ah oui.
Et bon, j'en veux pas un tennisman, entre guillemets, c'est pas, je le cible lui parce que je trouvais le parallèle, voilà. Mais on a aussi des politiques, comme tu disais, Wauquiez, qui te disent il faut pas dépenser beaucoup d'argent public. On a des patrons autour de cette table qui vont pressurer les salaires en permanence, se plaindre des charges, comme ils disent, au lieu des cotisations, parce qu'ils ont toujours pas compris. Voilà. Et en fait, tous ces gens, en fait, ben, on voit qu'il y a une déconnexion totale, comme tu le dis, entre ce qu'ils font et ce qu'ils disent. Et finalement, ben, c'est là que moi je reprends une chose que j'aime beaucoup mettre en avant, c'est que pour moi l'éthique doit précéder le politique. Et on voit bien que là, en fait, totalement l'inverse.
Bah ouais. Et pardon, mais c'est pour terminer aussi sur le sujet, enfin sur ce que je disais un peu avant. D'ailleurs, à bien plus petite échelle et avec moins de gravité, encore que selon les affaires, nos milieux militants, associatifs et autres ne sont pas non plus épargnés par des attitudes de merde, etc. etc. Et souvent, ce qui peut en ressortir, c'est justement ce rapport au pouvoir, en fait. Je veux dire, même l'ego, etc., des fois, c'est juste une notion de pouvoir qui se cache derrière l'ego, ou derrière le pouvoir se cache l'ego, mais il y a quelque chose d'assez lié, en fait, quoi. Et pardon, juste pour revenir sur Tsonga, il a quand même dit, quand il a été interrogé sur ce dîner, que, en fait, il n'allait pas commenter, et que, encore que, il faudra qu'il soit sûr que les allégations des journalistes étaient justes.
Ah mais il sait bien dans quel environnement il était. Enfin, je dis, en fait c'est ça le problème, c'est que la défense est toujours la même, c'est les journalistes mentent. Enfin, on sait, dès qu'il y a une affaire comme ça qui sort, c'est les journalistes mentent. On se souvient de Rugy avec ses homards, on se souvient de Mitterrand avec ses dîners, voilà, on se souvient de Mazarine Pinjot qui était qui a été logée et protégée aux frais de l'État pendant des années et on n'a jamais rien demandé alors que c'était quand même à un moment donné problématique. Pas qu'il ait une fille à côté, on s'en fout,
on s'en fout.
Qu'on le sache pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a dépensé des millions tranquillement. Sans rien dire à personne. Voilà, bon, toutes ces choses-là, elles existent et c'est toujours des journalistes qui finissent par les sortir et par dire bah voilà, on a trouvé la preuve que. Et la défense, c'est tout le temps la même. C'est des allégations, c'est pas vrai, c'est faux. Alors, il arrive que des journalistes se trompent, oui. Par contre, paradoxalement, si on regarde le nombre d'affaires qui sont sorties versus le nombre d'affaires où il y a eu une erreur, c'est un pouillème, les erreurs. Voilà. Et le problème, c'est qu'en France, il y a un journaliste qui disait ça l'autre jour, bah, d'ailleurs, c'est le journaliste de Mediapart, c'est Arfi, qui disait, il y a quand même dingue, en France, il suffit de soulever un tapis pour trouver une affaire politique. Et c'est ça notre problème, c'est l'ultra-corruption qui a globalement, à tous les niveaux et dans toutes les sphères politiques, là, tu parles de Wauquiez, c'est la région, on sait que les métropoles, c'est pas mieux, on sait que même à des échelle des fois qu'on n'imagine même pas. Il y a des affaires qui touchent des maires d'arrondissement de Paris. Enfin, je veux dire, on va descendre bientôt au conseil de quartier, quoi.
Mais parce que ça représente déjà beaucoup, en fait.
Oui, oui. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est là que c'est juste ce que tu dis, c'est que c'est le rapport au pouvoir qui est problématique et de comment, en fait, on veut séduire et comment on veut, soi-disant, servir les autres, entre guillemets, alors qu'en fait, on se sert d'abord à soi-même. Et c'est toute cette problématique.
Soit et sa classe sociale.
Oui, soit et sa classe sociale, évidemment. Mais c'est tout ça, en fait, la problématique. Et je trouve que, moi, je suis toujours effaré qu'en France, en fait, ça ne choque plus. C'est ça qui me dérange. C'est que ça ne choque plus. C'est-à-dire qu'en fait, on peut avoir été condamné pour détournement d'argent public, on peut avoir été condamné pour avoir battu quelqu'un, on peut même avoir avoué qu'on a été un homme violent, par exemple. Mais non, il faut toujours trouver une raison pour dire oui, mais quand même, il a le droit. C'est... En fait, il y a un moment donné, il y a une question d'éthique. Et si en fait, en France, on va aussi mal globalement, c'est parce qu'on ne met plus d'éthique dans notre rapport au politique. Il n'y a pas que légal dans la vie. Il y a l'éthique, il y a la façon dont on se comporte avec les autres, il y a la façon dont on porte des idées. et ces choses-là. Et je trouve que globalement, moi, c'est ton sujet, il est très parlant. C'est hallucinant aujourd'hui, je trouve, que plus rien n'étonne plus personne en France. Mmh. C'est-à-dire que là, on parle.
On est habitué, en fait.
Mais on parle quand même d'une région, Rhône-Alpes, où il y a un gars à lui tout seul qui a dépensé 200 000 euros pour se faire sa pub. Parce que clairement, c'est ça, on va arrêter.
Ah ben bien sûr.
Voilà, il a 200 000 euros d'argent public. Mmh. Dans le même temps, il a retiré 200 000 euros de subventions à Filaction qui vient en aide à des.
200 000
Non, 20 000 euros. Non, pardon, je dis.
Non, là, j'ai pas le chiffre, mais non, non, 200 000, c'est pas 200 000. C'est gigantesque. Non,
il a retiré des subventions, pardon, oui. C'est moi qui me trompe sur le chiffre, pardon. Oui, pardon, Filaction, c'était pas. C'est moi qui me suis emballé. Il a retiré les subventions à Filaction. Il a fait retirer des subventions à l'Opéra de Lyon parce qu'il estimait que l'Opéra ne devait pas faire. Et attention, parce que c'était ça qui était visé. C'était pas le fait que les gens à l'opéra, ils s'en foutent de ça. C'était le fait que l'opéra faisait des actions avec des quartiers populaires. Et c'est ça qu'il a visé évoquer en disant c'est pas le rôle de l'opéra. Alors je sais pas quel est le rôle de l'opéra, c'est pas ça. Il a fait la même chose avec l'auditorium à Lyon. C'est-à-dire qu'en fait, il s'attaque systématiquement aux pauvres partout où il a retiré de la subvention, aux pauvres, aux personnes qui en ont besoin. Et ce mec-là, et je vais le dire, et tant pis, il me fera un procès s'il veut, cette petite ordure qui est à la tête de la région Rhône-Alpes, en fait, et ben dans le même temps, il dépense 200 000 euros pour payer la gamelle à des gens qui peuvent le faire élire en 2027. Et bah ça, je suis désolé, ça devrait non seulement nous foutre en colère, mais ça devrait même nous mettre tellement en colère qu'on devrait aller lui demander des comptes dans son bureau.
C'est ça.
Voilà, c'est un avis personnel.
Oui. Et peut-être justement, en fait, pour revenir à cette notion de pouvoir, en fait, c'est que justement, en fait, c'est le pouvoir qui corrompt. Et que c'est à cela qu'en fait, qu'il faut peut-être qu'on continue de penser, de réfléchir, même si encore une fois, le pouvoir corrompt, ça date pas de moi. Hein. Je crois Louise Michel qui le disait.
Mais le pouvoir est maudit.
Le pouvoir est maudit, et c'est pour ça que je suis un art. Et il y a quelque chose de cet ordre-là. Et donc, c'est aussi continuer d'interroger ces choses-là. Parce que, et alors, le pouvoir, c'est évidemment le pouvoir politique, économique, mais on sait aussi que le pouvoir. Il est dans potentiellement tous les rapports humains, en fait, quoi. Vu qu'on peut avoir des rapports de pouvoir au sein d'un couple. Donc vraiment, c'est partout, en fait. Donc voilà, donc c'est justement pour peut-être un jour oser espérer imaginer une société qui serait débarrassée justement de ces rapports de pouvoir et des abus qui vont avec. C'est d'office, en fait. Et aller, bah, je te rejoins, aller un peu plus vers un monde, en fait, où un mot tel que l'éthique aurait justement toute sa place. Voilà. C'était tout pour moi.
Ah, je vais griller la fin de ta chronique.
Non, c'est pas grave, mais c'est effectivement, il y a ce mot-là qu'on n'ose plus forcément dire, ou même qu'on n'ose pas le dire, ou qu'on ne sait peut-être même pas ce qu'il veut dire, en fait.
Non, mais on a tellement d'exemples en ce moment. Enfin, je veux dire, on a une Assemblée nationale où il y a des gens qui sont mis en examen pour des viols présumés, qui viennent et qui siègent, il n'y a pas de problème. Ça pose de problème à personne, tout va bien, c'est normal. Enfin, je veux dire, ça, ne serait-ce que ça. Alors oui, c'est pas illégal. Encore une fois, mais encore une fois, il y a une notion d'éthique. Il y a des moments, il faut savoir se mettre en retrait et dire, ok, bah là, je vais pas aller me pavaner à l'Assemblée nationale parce que oui, quand même, ce dont on m'accuse est grave. Mais c'est juste un petit peu des choses comme ça. Mais c'est vraiment à tous les niveaux. Et je le redis, on voit ça dans les syndicats aussi, on voit ça dans les associations, on voit ça dans les partis politiques. Moi, je me rappelle, il y a des gros scandales, hein, l'ARC, des choses comme ça. Oui. Et en fait, systématiquement, la réponse, c'est toujours, et je le redis, les journalistes mentent. Voilà. Donc, dès que vous entendez un politique ou quelqu'un qui dit « les journalistes mentent », il y a peu de chances que ce soit le cas.
Voilà. Oui, non, mais c'est toujours ce rapport-là qu'on n'interroge plus du tout. Enfin, je parlais de contrôle des mandats, et là, sans être même dans une position anarchiste, abolition de l'État, etc. Mais je veux dire, je crois que la Suède ou autre n'est pas anarchiste. Pour autant, effectivement, il y a un contrôle des mandats, il y a un contrôle des dépenses des mandats.
Bah, en Suède, ils disent qu'il ne peut y avoir de république exemplaire s'il n'y a de contrôle des mandats. C'est écrit, je ne sais plus en quelle loi.
Mais oui, parce que justement, on donne un pouvoir à quelqu'un d'exécuter un mandat qui lui c'est même pas qu'il lui est donné, mais. Et bah donc en fait, bah ouais, en fait, on a le droit de contrôler ce que tu fais, en fait, parce que t'as été missionné, entre guillemets, pour ça, en fait. Donc tu agis normalement dans le bien commun et public, quoi. Enfin, c'est juste une réflexion autour de tout ça, et encore une fois, regardez autour de vous, de vos propres expériences, et vous verrez que le pouvoir et ses abus sont très fréquents, même s'ils ne coûtent pas 100 000 balles par soir, toujours. Voilà, passe à la musique.
Oui.
Laisse les gens, laisse les gens, laisse les gens. serre les dents,
à la base j'étais pas comme ça, à la base fallait que ça s'arrête, je devais pas parler de tout ça, donc je vais dire des choses que je regrette. À la base j'avais consolé l'amour, la mort et la rage, mais c'était juste très bien caché, caché dans le dos de mon courage. À la base tout ce que je vais dire là devait pas être sur mon album, alors serre les dents, serre les dents, serre les dents, serre les dents, serre les dents. Je plains les gens qui me plaignent, mais aussi tous ceux qui m'envient. Je fais pas tout ça pour qu'on m'aime, non je fais tout ça pour être compris. Au fond on fait ça intimement pour trois ou quatre personnes sur terre. Comment fait-on si brusquement, il y en a une que l'on enterre. C'est pas une chanson sur ma vie, non c'est une putain d'autopsie. Serre les dents, serre les dents, serre les dents, serre les dents, serre les dents.
Vous êtes toujours à l'écoute de La Causerie sur Radio Canu, oui. 102.2 de la bande FM et sur radiocanu.org, et on vient de s'écouter le tout nouvel extrait, ou en tout cas le premier extrait de l'album à venir de Martin Luminet, et le titre c'était Deuil.
Ouais, et bien, il vient quand il veut dans l'émission.
Ouais, clairement. c'est Fab qui, il nous avait prévenu qu'on allait voyager. Alors là, on était un peu dans le local, très local. Et là, on va faire dans le très, 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 très lointain. Je crois que 400 000 kilomètres. Ouais, c'est rien, c'est une fois le tour de la planète. Alors, voici.
Et de la Terre à la Lune.
C'est ça. Voilà.
Alors, oui, on y retourne en fait sur notre satellite, parce que je vous rappelle que la Lune, c'est le satellite de la Terre. Donc, on a été des millions à suivre le décollage de la fusée Artemis 1, ou comme ils le disent à la NASA, Artemis 1, et de son robot Orion. Ou Orion, donc du coup, qui est un robot satellite destiné à cartographier et à étudier la Lune au mieux, et plus tard d'amener des humains sur la surface dans le but de pouvoir à terme y installer une base lunaire où pourraient séjourner, des astronautes pendant plusieurs mois, voire années. Voilà. Alors, pour l'instant, tout est en mode automatique et sans humain à bord, parce que, voilà, c'est pas si simple. Et que, ce qui était valable en 70, c'était en 69, de dire, s'il meurt, tant pis, on aura tenté le coup. Aujourd'hui, on est un peu moins fan, et c'est tant mieux. Clairement, c'est tout en automatique. Et la NASA comme l'ESA, les Américains comme les Européens, qui sont les deux pilotes de cette mission, le répètent, non, il ne s'agit pas d'avoir une nouvelle ville sur la Lune, comme l'a dit un certain Elon M. mais bien une base scientifique, comme il peut en exister sur Terre en Antarctique. Voilà, donc avec le fait que là, en Antarctique, c'est un peu moins grand comme défi que sur la Lune. Mais voilà, mais c'est vraiment
un peu moins, même si c'est quand même un défi.
Ouais, c'est déjà un sacré défi. En Antarctique, c'est déjà des bases. Si ça vous intéresse, penchez-vous dessus, c'est déjà hallucinant. En fait, c'est ce qu'ils disent, c'est la Lune, c'est juste x10. Mmh. Mais on sait déjà faire, en fait. Ça a été un peu l'idée. Donc, la fusée SLS, pour Space Launch System, a décollé le 16 novembre dernier. Et tout s'est presque bien passé. Alors, presque, parce qu'il y a eu quelques couacs. Depuis. Alors d'abord, la fusée, elle a décollé, puis elle s'est un petit peu déviée, mais finalement, elle est revenue. Comme c'est une mission d'essai, essai, hein, encore une fois sans humain, c'est pas anormal, c'est même, comme l'ont dit les scientifiques, normal, sinon on ferait pas une mission d'essai. Voilà.
C'est le principe.
C'est le principe d'une mission d'essai. Donc le satellite porteur Orion tourne depuis autour de la Lune et prend des photos sublimes, hein, dont celle de la face cachée de la Lune. Donc, voilà, je vous invite vraiment à aller les voir. C'est beau. Alors, même si ça paraît dégueulasse, mais c'est, voilà, mais c'est beau. Oui?
Non, j'ai envie de faire une blague super nulle, mais je...
Vas-y.
Ah non, c'est dire. Ah, mais ils sont arrivés à faire la face cachée dans les studios américains. Voilà, je voulais faire
c'est la même
complotiste.
C'est
de
la
base.
Même que la pas cachée, mais éteinte. C'était facile. Donc, voilà. Et comme en fait, c'est Orion, il est parti avec du nouveau matériel, et notamment que les matériels photographiques ont énormément progressé en ces 5 dernières années. Donc voilà, parce qu'Orion, c'est quand même quelque chose qui date de 2010, hein, c'est-à-dire que c'est depuis 2010 que la mission Artemis est pensée. Ils ont au dernier moment changé les objectifs qu'il y avait à l'intérieur. Ils ont mis du très très haute définition. Donc ça permet de faire des photos de très haute résolution. Et ça permet en fait ces photos de faciliter la cartographie. Parce que le problème qu'on a avec il va se barrer tout le long maintenant. Donc le problème qu'on a avec notre satellite le plus proche, hein, la Lune, c'est qu'en fait on a du mal à le voir très bien. Alors pour deux raisons. Georges l'avait expliqué, c'est que la Lune est très éclairée. Donc quand vous zoomez sur la Lune, même avec une lunette, même si vous êtes dans l'espace, c'est compliqué de cartographier parce que c'est très très blanc. Donc ça renvoie énormément de lumière. Et donc en fait, le fait d'envoyer des appareils photo qui permettent de faire des photos dans différents formats, ça permet en fait de faire de la cartographie. Bon, il y a Jean-Yves qui part en fou rire, donc ça va être compliqué pour moi. Je sais pas pourquoi il a pris la photo.
Je sais pas.
C'est la photo de la Lune, ça lui fait penser à des choses.
Non, voilà. Non, non.
Donc, voilà. Donc ça permet aussi d'étudier la Lune, hein, tout simplement. Et notamment sa forme, parce que elle est représentée comme une sphère, alors qu'en fait ce n'est pas tout à fait une sphère, elle est déformée, et donc ça permet de vérifier tout ça. Orion, hein, donc c'est le futur module habitable, il se rapprochera ensuite au plus près de la surface. Et il s'en éloignera au plus loin. C'est-à-dire que l'idée, c'est de voir, là, on va tester qu'est-ce qui se passe si on se loupe et qu'on passe trop près, et qu'est-ce qui se passe si on se loupe et qu'on passe trop loin. Voilà, est-ce qu'on arrive à piloter? C'est vraiment ça, hein, qui est testé. Voilà, c'est pour ça qu'il va passer à 64 000 km, et puis après, il se rapprochera encore plus près, ou inversement. Et donc, il a 25 jours de mission. Donc, dans l'avenir, entre 2024 et 2026, il va transporter des astronautes. D'ailleurs, vous avez sûrement entendu parler, il y a une Française qui a été retenue, et un astronaute handicapé. Voilà. Et l'idée, c'est non pas, comme on dit, d'être inclusif, mais de ne pas être exclusif, comme ils disent. J'aime bien la version du truc. Voilà. Alors, retourner sur la Lune, alors pourquoi on y va? Alors, au départ, on pouvait craindre que cette mission ne soit qu'un porte-étendard des USA, mais elle a été très large, très rapidement. Hein. L'audition, je crois, c'est 2010, et dès mi-2010, elle est élargie à une mission internationale. Donc depuis, évidemment, la Russie s'en est retirée et la Chine aussi, mais ça, voilà. Mais c'est quand même une bonne chose, ça évite le côté impérialiste de tout ça, même si on ne peut pas nier que la course à l'espace a aussi une part planter le drapeau en premier. Ça, c'est toujours le problème, on va pas le nier ici, mais par contre, la collaboration sur cette mission est assez large, et c'est plus intéressant. USA, Europe, Inde, Japon et d'autres pays ou nations qui se sont jointes, notamment la Suisse. J'ai vu hier que la Suisse avait fourni des optiques, parce qu'ils sont très bons en optique. Bah, ça va en plus. Ouais.
Ouais, et en même temps, je me dis, là, si au moins quelques pays, et que ça en fait quand même quelques-uns,
ouais.
En fait, c'est déjà plutôt bien, et qu'en même temps, en fait, cet impérialisme, ce patriotisme, ce nationalisme, tout ce qui entoure tout ça, en fait, on le retrouve mais dans plein de choses. Quoi. Enfin, je veux dire, j'ai le souvenir d'un. Alors, je crois que c'était, alors, je sais plus si c'était les Russes ou les Danois qui sont allés planter un drapeau à 3 km sous l'eau.
Ah, c'est les Russes.
Parce que.
Pour dire c'est chez nous.
Mais ouais, en fait. Enfin, donc, je veux dire. Ouais. Oui, en fait, c'est. Mais là, encore une fois, désigner l'exploration spatiale comme le résultat d'eux, non, en fait. Ce patriotisme-là, faut lutter contre partout, niveaux, en fait. Pas juste quand il s'agit de l'exploration spatiale.
Ouais, il est aussi dans une Coupe du Monde au Qatar.
Par exemple.
Donc, en fait, on peut d'ailleurs s'empêcher de remarquer que les astronautes sont souvent utilisés à des fins de propagande nationale. Ils le savent. Hein. Moi, j'ai vu des très, très bonnes interviews d'astronautes américains, français, même de cosmonautes russes qui l'expliquent, hein, qui disent qu'ils sont conscients de ça. Mais comme ils le disent, ils arrivent souvent par leur collaboration, en fait, à éviter cela. Et moi, je me souviens d'une image qui est très très drôle où on voit Donald Trump appeler la capitaine de l'ISS, dont j'ai perdu le nom parce que c'est son plus long séjour dans l'espace. Et en fait, il essaye de lui faire dire les Américains ont réussi. Elle n'arrête pas de répondre. L'humanité a avancé et c'est grâce au module italien, au machin. Et elle fait le tour de l'ISS avec tous les modules du monde entier pour casser le mythe. Voilà, ce qui était très intéressant.
Mais oui, mais là, ça démontre aussi, mais comme aussi les scientifiques, alors pas au niveau du spatial, mais d'autres scientifiques, en fait, la collaboration internationale,
c'est la base.
C'est presque un fait, c'est un fait, en fait. Donc après, oui, c'est les politicards de chaque pays qui essaient de tirer leur truc en disant c'est nous, c'est notre patrie. Donc,
Donc c'est depuis 2010 que des milliers de personnes travaillent sur ce projet, en fait, en réalité. Projet qui s'inscrit l'exploration spatiale, ce qui est l'inverse d'ailleurs de l'exploitation spatiale, qui serait plutôt ce que tentent de faire Jeff Bezos et Elon Musk. Parce que on parle pas là d'envoyer dans l'espace des touristes, mais on parle bien d'envoyer des scientifiques, des gens qui vont faire des expériences et faire avancer les connaissances.
Là où Jeff Bezos Elon Musk, c'est leur portefeuille qui va
voir. C'est ça.
Bon, en même temps, là, je me dis Musk, peut-être, on va plus trop en entendre parler, vu le pognon qu'il est en train de perdre.
Il est encore bien riche.
Mais on peut espérer que...
Donc l'envie, c'est bien entendu de toujours plus connaître notre environnement proche, c'est-à-dire la Lune, et pourquoi pas, en fait, d'aller plus loin, à terme, pourquoi pas aller vers Mars, par exemple. Parce que pour savoir si l'on va pouvoir un jour aller vers Mars, encore faut-il savoir si l'on est capable de vivre à 400 000 km de la Terre sur son satellite le plus proche pendant quelques temps. Parce que Mars, c'est 4 ans, donc c'est long. Vous voyez, c'est...
C'est énorme.
Donc en prime, les futures missions habitées auront un aspect scientifique très poussé. Ça a été montré et démontré. Par exemple, on n'est pas resté assez longtemps sur la Lune pour en connaître tous les aspects. Un truc très bête, mais pourquoi y a-t-il de temps en temps des sortes de tremblements de Terre sur la Lune?
Alors, des tremblements de Lune, donc.
Des tremblements de Lune, oui. De fait. Quelle est la nature du noyau lunaire? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, au fond?
Parce qu'on ne sait toujours pas.
En fait, on a des suppositions, mais on n'est pas resté assez longtemps pour savoir quelle était la nature exacte du noyau. Parce qu'il faut faire des mesures, des choses comme ça, et que on est parti tout de suite voir ailleurs et on est passé à côté de notre satellite plusieurs fois, mais on n'a pas creusé. Quelle est la composition du sol aussi exactement? Parce qu'on a ramené des pierres effectivement, mais elles étaient que d'un endroit, donc peut-être qu'ailleurs c'est pas tout à fait pareil. Est-ce qu'on peut vivre longtemps avec une gravité réduite? Parce que sur la Lune, la gravité c'est un sixième de la gravité terrestre, donc forcément vous faites des jolis bons.
Des interactions sur le corps, etc.
D'autant plus si on veut voyager 4 ans dans un vaisseau plus tard, il faut se poser cette question-là. Alors bien entendu, une partie de ces relevés et autres pourrait être fait avec un engin robotisé, tout le monde le dit, mais ce serait aussi pas aussi simple en fait que d'avoir des humains sur place, parce qu'il suffit par exemple de voir la complexité que c'est d'utiliser les rovers sur Mars pour comprendre qu'une présence humaine c'est vachement plus pratique pour faire des essais, puis ça accélère les choses. Autre point, c'est la possibilité pour les astronautes de pouvoir réagir à un phénomène imprévu rapidement s'ils sont sur place. La chute d'une météorite pourrait être étudiée immédiatement ou presque, parce qu'on sait que la Lune est régulièrement frappée par des météorites. Or, on sait que ça peut aider à comprendre encore une fois mieux comment la vie, par exemple, a pu arriver sur Terre. J'en avais déjà parlé. Donc, j'entends aussi qu'il y ait des critiques. Et moi, je suis d'accord avec les critiques, mais je pense que des fois, il faut mettre un peu de raison dans la critique. Alors, j'ai lu pas mal de critiques sur le coût et les impacts environnementaux. Alors, le coût, je vais rappeler que les programmes spatiaux, tout programme spatiaux mis bout à bout, c'est même pas 1,5% des budgets militaires. Donc ça va. Enfin, j'ai envie de dire.
Je sais que, que je sois dans la sphère militante et qu'on va dire, je me conscientise un peu. Effectivement, c'est un argument qu'on sort très vite, en disant. Mais ce pognon. Et en fait. Pointer le doigt sur ça, c'est refuser de voir tout le reste.
Tout le reste,
en fait.
Il y a beaucoup plus grave.
C'est un argument qu'on sort
souvent.
En termes
de coûts. Personne ne nie que le fait que ça ait des coûts et des impacts environnementaux. Oui. Personne ne le nie, même pas ceux qui font ça. Mais j'aimerais quand même revenir dessus. On parle bien là d'une mission scientifique dont tout va être donné à l'humanité. On ne parle pas, encore une fois, c'est les découvertes, mais aussi les techniques avancées, parce qu'il faut trouver des solutions pour vivre sur la Lune. Alors un exemple que personne n'a vu venir, les tissus très fins mais très chauds que vous avez en ce moment là, qui sortent dans tout plein de magasins de sport, les doudounes ultra légères, en fait ça vient de ce programme. parce que ça a été développé pour comment je fais pour être dans la Lune s'il se met à faire très très froid. Il faut des choses pour nous réchauffer très vite, voilà. Tout comme d'ailleurs les nouvelles normes Wi-Fi dont tout le monde entend parler, le fameux Wi-Fi 6, tout ça, bah en fait elles ont été développées pour cette mission-là. Et de toute façon, l'amélioration aussi des scanners pour détecter les cancers, parce qu'en fait on a amélioré les scanners pour regarder ce qu'il y a dans les sols, et en fait bah, on s'est rendu compte que ça servait vachement pour regarder ce qu'il y a dans les corps. Donc voilà. Et les nouvelles optiques photo aussi, parce que les nouveaux appareils super compacts, eh ben vous pouvez remercier la mission Orion, parce que ça a été développé pour cette mission-là. Okay. Voilà, donc on ne parle pas là de tourisme spatial, comme avec Elon Musk ou Jeff Bezos. On parle bien de choses qui permettent des avancées. Et oui, ça revient par le capitalisme, parce que oui, on n'a pas encore abattu le capitalisme. Voilà. je suis désolé. Pour ce qui est des impacts environnementaux, ils sont réels. Hein. Chaque vol de la fusée représente 10 croisières transatlantiques. Donc là, j'en entends déjà qui font « Oui, 10 croisières transatlantiques ouais, !» Alors, je vous rappelle juste que chaque jour, il y a 52 bateaux de croisière qui traversent, qui sont en route dans un sens ou dans l'autre sur l'Atlantique, chaque jour. Et il y a aussi des milliers de porte-containers. Voilà.
Et qui ne traversent pas juste l'Atlantique.
Ah non, partout. Donc il faudrait relativiser quand même les choses, se dire qu'il faut au maximum limiter les impacts de l'exploration spatiale, mais on peut aussi limiter beaucoup d'autres choses en parallèle, ce que l'on ne fait finalement pas vraiment.
Ben, oui, c'est voilà. Ça, en fait, on aime bien pointer sur la découverte spatiale et sur l'aventure spatiale, et en fait, si en même temps tu t'abstiens de toute critique du monde là, bien sur Terre, ouais, ça vaut ce que ça vaut, quoi.
Bah c'est ça, c'est-à-dire que, et en plus, je pense sincèrement, et je le dis pas, que parmi toutes les grosses structures qu'il y a, franchement, que ce soit la NASA ou l'ESA ou même les Indiens, voilà. Alors, je dis moins ça pour les Russes parce qu'ils le font pas, faut être très honnête, ou pour les Chinois parce qu'ils le font pas non plus. Ils sont extrêmement transparents là-dessus, mais vraiment. Et notamment parce que il y a beaucoup de scientifiques et que les scientifiques ils disent, bah, il n'y a pas de raison qu'on nie ce qu'on fait. Et ils travaillent énormément sur la réduction des déchets et sur la réduction des impacts. Et ça, franchement, il faut suivre ce qu'ils font parce que ça peut être un exemple dans d'autres secteurs. De l'industrie, tout simplement, par exemple. Bon, au-delà de ça, en fait, de toute façon, nous sommes des humains. Hein, donc, les humains, c'est curieux et c'est découvreurs. Voilà. Ça fait partie un petit peu de ce qui fait l'être humain. Nous aimons dépasser l'horizon et ce qui nous a amené, effectivement, à cette période un peu plus éclairée de l'humanité. Non sans un contre-champ de destruction un peu problématique, certes. Mais, en tout cas, on est dans une période où, globalement, on est un petit peu plus éclairé qu'il y a 2 ou 3 000 ans. Faut quand même pas se mentir. Au fond, hein, cette exploration s'inscrit dans notre corpus collectif d'avancer vers plus de connaissances et de sciences. Voilà. Pour dépasser peut-être même des problèmes de demain, en termes de logement par exemple, parce que notamment il y a des scientifiques qui travaillent sur cette base lunaire qui aujourd'hui ont mis en open source, c'est-à-dire gratuitement, comment faire des matériaux très légers mais très très isolants, de façon à pouvoir construire des logements dans des régions où il ferait très 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 chaud, voilà, et des logements qui resteraient assez frais. Pour vivre dedans, sans forcément beaucoup de clim. Et ça a été mis totalement en open source. Donc, c'est-à-dire, il y avait vraiment l'idée de dire, bah, servez-vous, quoi. Donc voilà, bah, oui, c'est un des exemples. Et ça peut aussi nous aider à comprendre encore mieux bah, qui nous sommes et d'où nous venons. Et ça, c'est hyper important. Parce que quand on aura compris qu'on ne vient pas de Dieu et que nous ne sommes pas grand-chose, on aura beaucoup avancé. c'est un avis très personnel. Et qu'à titre individuel, on n'est pas grand-chose, mais que tous ensemble, collectivement, on peut faire des grandes choses. Ça aussi, ce serait une très belle leçon. Mmh. Voilà. Donc, les missions Artemis 2 et 3 hein, sont les prochaines étapes. Elles seront a priori habitées. Alors, la première devrait tourner habitée autour de la Lune sans se poser. Et la troisième, se poser sur la Lune. C'est ça l'idée. Si ça se passe comme prévu, hein, parce que ça peut encore changer. Voilà. Et il devrait y avoir des livraisons de modules aussi entre-temps sur la Lune, par des navettes en fait qui vont déposer des modules. D'ici quelques temps, il y a un laboratoire lunaire qui verra donc le jour et des expériences pourront y être menées, notamment en recherche médicale, parce qu'aussi étonnant que cela puisse paraître, la microgravité, le fait d'avoir moins de gravité que sur Terre, ça peut permettre des choses plus simplement que dans un labo ici, et ça peut parfois être très utile. Voilà. Notamment, on sait qu'il y a certaines avancées scientifiques qui ont été faites dans les traitements de certains cancers qui ont été découverts dans l'ISS parce qu'il n'y avait pas de gravité. et que ça permettait des expériences qu'on peut pas faire sur Terre. Voilà, okay. Mais qu'on peut ensuite reproduire sur Terre. En fait, ça accélère certaines choses, donc on sait vers quoi on va plus vite. Et du coup, en fait, en les faisant sur Terre avec la gravité, c'est plus lent, mais on sait qu'on va y arriver. Ouais, okay. C'est ça, ce genre okay. de choses-là. Donc cette avancée d'un retour sur la Lune, même si elle n'est pas exempte de problèmes éthiques, hein, comme je l'ai dit, et politiques, ça c'est aussi à nous de les mettre de l'éthique et du politique, auquel il faut rester vigilant et vigilante, évidemment, doit s'accompagner d'un partage des savoirs le plus grand possible, évidemment. On mettra d'ailleurs sur le blog des liens pour que nous puissions tous et tous suivre ce qui se passe, parce que c'est quand même, souvent on l'oublie et on l'ignore, mais c'est public, donc vous pouvez quand même trouver plein de trucs, et mesurer à quel point les avancées scientifiques vont à une vitesse folle aujourd'hui, et à titre personnel, j'ai envie de dire vivement la suite.
On aura tous compris que tu aimes l'espace.
J'aime quand on explore. Oui. Je trouve que c'est un très beau côté de l'être humain. Mmh. Voilà. Et je n'enlève pas le passé, j'enlève pas l'histoire. Je trouve, c'est que des fois l'exploration, ça fait de la merde. Sauf que je trouve qu'aussi, c'est aussi comme ça qu'on est devenu ce qu'on est aujourd'hui. Mmh. Et que si maintenant on sait qu'il faut éviter de massacrer les autres, par exemple, parce que on a retenu l'histoire et qu'on, voilà. Mmh. Et que ben, finalement, c'est aussi ce qui fait la grandeur de l'être humain. Et je ne fais pas partie de ces gens qui voient l'être humain comme un cancer à éradiquer. Oui. Je fais plutôt partie de ces gens qui pensent que plus on va vers la connaissance, et moins l'être humain est problématique. Mmh. Voilà.
Oui, il n'y a pas de nature humaine.
Non, exactement.
Il n'y a que des humains et des positions politiques et des projections politiques.
Exactement.
Et ben, on passe à la ZIC ?
Oui.
توی کوچه رقصیدن برای ترسیدن به وقت بوسیدن برای خواهرم خواهرت خواهرامون برای تغییر مغزها که پوسیدن برای شرمندگی برای بیپولی برای حسرت یک زندگی معمولی برای کودک زبال و گرد و آرزوهاش برای این اقتصاد دستوری برای این هوای آلوده برای ولی عصر و درخت های فرسوده برای پیروز و احتمال انقراض برای سگ های بیگناه ممنوعه برای گریه های بیوقفه برای تصویر تکرار این لحظه برای شده ای که میخنده برای دانش آموز بیخوابی برای من میهن آبادی برای دختری که آرزو داشت پسر بود برای زن زندگی آزاد
de retour dans la causerie au 102.2 sur radiocanu.org et on vient de s'écouter Ifa qui a repris donc le titre de Shervin Baraye et elle l'a repris version métal.
Ah
et
bon
voilà, et je trouve cette version magnifique et c'était quand même l'occasion pour nous, pour la causerie, d'avoir une pensée pour les Iraniens et les Iraniennes qui mènent toujours la révolution et qui franchement font preuve d'un courage hallucinant, voilà, et voilà, c'était une pensée pour elles et eux. Voilà.
Tout à fait. Et bien, on va se quitter avec quelques petits rendez-vous. Alors là, c'est un rendez-vous pour demain matin, donc si vous pouvez pas y aller, mais en tout cas, c'est l'information qui est aussi quand même bonne à prendre et à comprendre. Ça concerne en fait la chaîne de magasins, ou les magasins en tout cas grands frais. Vous savez, ils font de la pub hyper sympa, les produits sont frais, sont bons, tout ça. Et en fait, il y a Sud Commerce et Services qui a fait en fait un communiqué de presse sur la situation justement dans ces magasins-là, où tout semble en fait organisé pour empêcher une juste représentation des salariés. Je vous le lis vite fait, vous m'en voudrez pas. Alors, au sein de chaque grand frais, chaque rayon d'activité est organisé en une société différente. Les épiciers, les caissiers, les bouchers, etc. Chaque société essaie d'avoir moins de 11 salariés, permettant ainsi d'échapper à la mise en place d'un CSE, Conseil économique et social, au sein de chaque magasin. Le groupe ProSol, bien sûr basé au Luxembourg pour éviter de payer les impôts en France, gère les fruits et légumes au sein des grands frais. Il compte plus de 10 000 salariés, mais n'a aucun délégué du personnel. Son omniprésent gérant Hervé Valla préfère payer 3 avocats simplement pour éviter la mise en place d'un élu du personnel sur ces 3 sociétés du grand frais de Bron, Pierre Bénite et Rieux-la-Pape. Vive le dialogue social avec le Luxembourg, non au dialogue social avec un élu Sud Commerce et Services. Donc c'est rendez-vous en fait demain matin à 9h au tribunal judiciaire de Lyon. En fait, c'est des salariés avec Sud Commerce et Services qui demandent en fait la reconnaissance d'une unité économique et sociale sur 3 des sociétés de ProSol. Donc voilà, donc c'est pour essayer de les soutenir pour avoir bossé dans le commerce et avec quelque chose qui s'acoquinait avec grands frais. On peut citer Cerise et Potiron ou Provis Fruits ou des choses comme ça. En fait, ce sont des procédés très 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 fréquents. C'est-à-dire, vous êtes indépendant, mais vous faites partie d'un grand truc qui vous donne les ordres, qui vous donne qui gère tout, toute la mécanique. Mais en fait, vous n'avez aucune représentation du personnel. Et pour avoir goûté à ces choses-là de très près, je peux vous dire que la violence patronale est incroyable, sauf que personne n'a absolument rien en main pour pouvoir avoir un contrôle sur ça. Donc voilà, c'est le commerce et les grandes surfaces comme ça, c'est vraiment un des lieux où
Et pourtant ils vendent ça tellement bien.
Mais oui,
c'est avec ces 3 petits mecs qui pour une fois vont aller faire les courses.
C'est tout à fait ça.
Voilà, bref.
Voilà.
Moi c'est une info, c'est pour le 30 novembre. Alors le 30 novembre c'est mercredi, c'est dans le cadre de la Biennale Trace dont on a déjà parlé. Donc ça s'appelle Uberisation du monde du travail et exploitation des travailleurs étrangers. C'est une projection, performance et table ronde. Donc mercredi 30 à 18h30, ça se passe au musée Gadagne. Alors c'est gratuit, mais par contre il faut vous inscrire. Donc il faut aller sur gadagne-lyon.fr. C'est juste que en fait le nombre de places est limité. Donc en fait ça fait un billet gratuit. C'est juste ça. Mais voilà, donc ça parle évidemment de l'ubérisation et du fait qu'on exploite à mort dans l'ubérisation les salariés étrangers et sans papier. Mmh. Et quand je dis à mort, c'est pas une façon de parler.
C'est ça. Prochain rendez-vous, c'était quoi c'est jeudi.
Toi, tu n'es pas passé à la page d'après.
Si, tout à fait. C'est un ciné-débat avec Ni Dieu ni Maître, une histoire de l'anarchisme. L'ADS, je ne sais pas qui c'est, l'Espace communal de la Guillotière vous propose une projection du documentaire Ni Dieu ni Maître, une histoire de l'anarchisme de Tancred Ramonet dans l'annexe de l'ECG, donc de l'Espace communal de la Guillotière, au 27 rue Salomon-Rénac, dans le 7e arrondissement. Donc c'est étalé sur 3 jeudis, le 17 novembre, le 24 novembre, donc ça s'est passé en fait, je suis complètement naze, et donc le jeudi 1er décembre à 18h30, avec discussion et atelier. Voilà.
Ensuite, moi, ça se passera le oula, attendez, je me suis perdu. Le 2 décembre, voilà, donc vendredi.
Vendredi
à 18h30. Décidément, j'annonce que des choses à 18h30. Bon, c'est comme ça. C'est donc en fait le Casdal, hein, qui est donc un squat autogéré, qui ouvre ses portes pour faire une assemblée générale, tout simplement, pour savoir ce qu'on fait, ou une assemblée plutôt. Le Casdal, c'est hop là, je retrouve son adresse, au 221 rue de Créqui, dans le 3e, à Lyon. Et c'est à 2 minutes à pied du métro P, place Guichard, ou alors du tram T1 Palais de Justice. Voilà, il et elle vous attendent pour vos idées, vos envies, et transformer ce lieu en lieu de vie. ou plutôt qu'un immeuble vide.
C'est ça.
Voilà.
Et bien, pour rester dans la notion de logement, de toit, tout ça, il y a le logement n'est pas une marchandise, c'est un droit, c'est une manifestation festive le 3 décembre, donc ça c'est samedi si je ne me plante pas. Ouais, c'est ça. Donc c'est à 14h place Gabriel Péri, en fait c'est organisé par les collectifs du DAL, droit au logement 69, et la guillotière n'est pas à vendre, et en fait c'est pour rappeler que... quand les pouvoirs politiques continuent, eux, de vouloir faire toujours de nouvelles lois encore plus répressives, comme la prochaine loi anti-squat qui devrait être à l'ordre du jour des politicards, ben en fait, c'est que au-delà de... Enfin, il n'y a pas de politique du logement, si ce n'est la criminalisation et la répression, en fait. Alors qu'en fait, il y a un vrai problème de logement, en fait. Enfin, si vous êtes sur des grandes villes, c'est absolument compliqué de pouvoir se loger... pas cher, ou en tout cas dans des, on va dire, des tarifs raisonnables. Donc voilà, donc c'est vraiment tout ça, et encore une fois, la seule réponse du pouvoir politique, c'est répression et violence. Donc, ce qui ne répond absolument pas aux besoins. Donc voilà, donc c'est 14h, départ de la place Gabriel Péri, place du Pont, donc, et voilà, pour dénoncer la pratique de spéculation immobilière et la marchandisation du logement, les politiques qui sont à la faveur des investisseurs, les dérives des projets de rénovation urbaine et les charges trop élevées.
Ben, j'en profite juste pour dire que c'est un sujet tellement vaste, le logement, que ça fait même l'objet d'émissions sur les télés nationales, vu que vous allez voir l'émission 27 qui a eu lieu ce soir et qui parlait du logement en Europe.
En Europe,
et vous verrez que c'est juste hallucinant.
Sur Arte,
les chiffres qui sont sortis et les prix. L'augmentation des prix des logements, mais même des locations des biens dits sociaux. Voilà. Et c'est vraiment à l'échelle européenne. Alors, ils expliquent très bien pourquoi, hein, spéculation, machin et tout. Et c'était très intéressant. Voilà.
C'est ça. Donc, oui, ça permet aussi d'élargir le champ de vision.
Oui,
aussi.
C'est ça. C'est, je voulais dire, c'est pas juste propre à Lyon. Malheureusement, c'est un peu trop global.
Voilà. Et bien voilà, on a tout fini. On vous donne rendez-vous dimanche prochain,
tout
évidemment, 22h, 23h sur l'antenne de Radio Canu. Et on se quitte en musique avec.
Eh ben, la rubrique nécrologique. Je savais qu'il allait la faire, donc je l'ai fait avant lui. Parce que moi, j'aime bien rendre hommage aux gens qui m'ont fait vibrer. Voilà.
Mais moi, personne ne m'a fait vibrer.
C'est
tu
pas
comprends
vrai.
Ce cri du cœur.
C'est pas vrai, on verra le jour où Brigitte Fontaine meurt. Et, et c'est pour dans pas longtemps.
Il me prend par les sentiments.
Non, mais en tout cas, parce que bon, on rit, même si c'est triste, mais c'est comme ça, les gens meurent. Bon, voilà. Mais il y a Irène Cara, qui est donc quand même une des actrices et chanteuses emblématiques des années 80 et 90, qui avait fait Fame, qui a chanté Flashdance, qui avait aussi sorti des magnifiques albums. Et vraiment, parce qu'on la connaît beaucoup pour ça, et elle avait fait beaucoup d'autres choses. Voilà, elle est morte à l'âge de 63 ans, et c'est beaucoup trop jeune à mon
ouais,
goût.
C'est pas bien.
Et donc, du coup, voilà. Et j'avais envie, je pense qu'on avait envie, parce qu'on est voilà, de passer ce soir Fame, tout simplement, d'Irène Cara pour finir l'émission. Parce que ça met la pêche et de se dire que c'est. Les interprètes meurent, les musiques ne meurent jamais.
C'est ça.
Voilà.
Et voilà, on vous dit donc à dimanche prochain sur l'antenne de Radio Canu. D'ici là, bon courage à toutes et à tous.
Ouais.
Et puis voilà, des bisous.
Des bisous. Salut.
Ciao.